Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
Bienvenue pour Ici l'Europe, notre émission sur France 24 et RFI à Bruxelles, à la Commission européenne où travaille notre invité d'aujourd'hui, puisqu'il en est le vice-président. Il vise d'ailleurs beaucoup plus haut. En l'occurrence, nous verrons pourquoi avec notre invité, donc Maros Šefčovič, bonjour.
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 Alors, vous êtes arrivé à Bruxelles en 2004 pour représenter votre pays qui devient membre de plein droit de l'Union européenne, en même temps que cet autre pays issu de l'ex-bloc soviétique. Vous êtes nommé à la Commission européenne en 2009 pour vous occuper quelques mois des questions d'éducation et vous n'allez plus la quitter. Vous rempilez en 2010, toujours avec Manuel Barroso, puis en 2014 avec Jean-Claude Juncker, vous êtes chargé de l'Union énergétique.
Alors je commence bien sûr par cette course à la candidature. Il faut que nos téléspectateurs soient au courant qu'il y a des élections européennes en mai 2019 et que vous visez à la tête de liste socialiste. Vous avez un concurrent dans ces murs même, un autre vice-président, Frans Timmermans, qui est néerlandais. Pourquoi est-ce que votre profil peut séduire davantage les socialistes ?
Nous avons juste entamé tout ce processus. Nous avons eu notre premier débat le mercredi dernier. J'étais très impressionné que presque tous les leaders des partis socialistes sont venus à Bruxelles. Et je crois que notre discussion était vraiment ciblé sur le meilleur programme, sur les meilleures idées, sur la stabilité et l'unité des partis européens socialistes. C'est pourquoi nous considérons, j'en suis très sûr, que nous sommes très très bons amis, très bons collègues qui veulent travailler ensemble aussi au prochain collège des commissaires. Et c'est pourquoi je peux dire que notre débat, c'est plutôt une accumulation de meilleures idées, de meilleures propositions pour le succès de notre parti.
Mais vous êtes de l'Est, vous êtes un peu plus à gauche que lui, comment ça marche?
Oh, je suis de l'Est, et bien sûr, je crois que nous sommes le seul parti politique qui a maintenant les deux candidats de l'Ouest, de l'Est, parce que je crois que je suis le seul Spitzenkandidat qui vient de l'Europe centrale et l'orientale. Je crois que c'est un avantage parce que je comprends très bien pourquoi parfois on a cette tension entre les pays de l'Ouest et les pays de l'Est. Et je crois qu'on a vraiment besoin d'intensifier ce dialogue parmi nous, les Européens.
Alors, vous avez parlé de l'importance du programme, des idées. Effectivement, oui. Votre parti, votre famille politique, la social-démocratie, est en crise. Hein. Dans les sondages, vous arrivez second pour ce prochain scrutin européen. Votre parti a-t-il vraiment une chance d'emporter la majorité? Et pourquoi faire finalement, comment vous allez renouveler le logiciel de la social-démocratie européenne?
Mon expérience de dernière élection est très claire. On peut vraiment séduire les gens par les projets concrets. C'est pourquoi je propose d'introduire un vrai politique industrielle, parce que je crois que c'est absolument nécessaire. Je le vois avec mon projet de l'Airbus des batteries, je le vois avec notre système de Galileo, de Copernicus, comment on peut vraiment réussir ensemble. En même temps, je crois aussi en France, c'est très clair qu'on doit développer un peu plus assertif politique commerciale, parce que les entreprises européennes sont déjà trop fatigués par les traitements qu'ils ont, par exemple, en Chine. Et je crois qu'on doit vraiment insister sur plus de réciprocité, qu'on va traiter les entreprises chinoises chez nous comme on traite les entreprises européennes en Chine. Et la dernière chose, je crois qu'on doit vraiment investir beaucoup plus aux jeunes gens en Europe. Ma proposition est simple, qu'on va faire tout nos possibles pour assurer que nos jeunes sont le meilleur prêt pour cette étape de mondialisation.
Politiquement, on parlait politiquement, vous appartenez donc en Slovaquie, dans votre pays, au parti Smer, qui est au centre d'une polémique. Depuis le meurtre du journaliste d'investigation, Jan Kuciak, on a retrouvé les commanditaires du meurtre. Ça serait lié d'ailleurs à un certain Marian Kochner,
oui.
un businessman très controversé, proche de l'ancien Premier ministre Robert Fico, dit-on. Alors, est-ce qu'il y a des liens entre ce gouvernement social-démocrate, la mafia italienne, etc. Est-ce que vous croyez à tout cela?
Je ne crois pas du tout à tout cela parce que oui, j'ai lu quelques articles concernant les liens entre M. Kouchner, mais il a plutôt le lien avec les autres partis en Slovaquie parce qu'il est le businessman qui a essayé de faire cette political marketing. Mais ce qui est absolument clair maintenant est que nous avons un nouveau premier ministre, un nouveau chef de police, un nouveau procureur général. Nous avons déjà trouvé les personnes qui ont commis ce crime terrible et toutes les allégations qui étaient faites sont maintenant sous l'investigation. Et je peux dire que les journalistes slovaques sont très courageux, sont très braves et aussi l'opinion publique est assez fort. Et je suis absolument certain que tout sera appropriément
Le premier ministre, en effet, a dû démissionner à la suite de cette affaire, oui. Robert Fico, mais on dit qu'il tire encore les ficelles.
Mais nous avons bien sûr un nouveau premier ministre et je peux vous assurer que toute cette investigation, toute cette enquête est sous un scrutin public énorme. Et je peux simplement citer le juge. Qui dit qu'il n'a jamais vu un dossier si soigneusement préparé pour lui concernant cette enquête dans cette affaire.
Alors, vous nous avez parlé de votre programme, vous avez beaucoup parlé d'économie, mais en fait, on voit qu'il y a un sujet qui s'impose à l'Europe, hein, que les populistes ont imposé, c'est celui des migrations. Il en a encore été question au dernier Conseil européen. Alors, l'Autriche a fait une proposition, un compromis, puisqu'un certain nombre de pays, dont le vôtre, la Slovaquie, ne veulent pas accueillir des réfugiés, en échange, ceux qui refusent pourraient verser de l'argent, pourraient payer au pays d'origine. Est-ce que, pour vous, c'est une bonne solution?
Je crois que ce qui est très important, premièrement, est de vraiment d'éviter cette piège, spécialement d'extrême droite, d'avoir toutes ces élections européennes sur un seul sujet. Parce que je crois que c'est un jeu politique. Et en même temps, je crois qu'on doit vraiment démontrer à notre public qu'on a cette situation sous le contrôle. Et je crois que c'est quelque chose qui se passe. Nous avons vu que les vagues migratoires ont baissé d'une manière significative, que maintenant nous avons aussi les mesures propres, comme on peut améliorer le travail des agences de protection des frontières, aussi d'agences d'asile.
Mais un certain nombre de pays, dont le vôtre, ne veulent pas
La Slovaquie a déjà
des moyens supplémentaires pour Frontex.
La Slovaquie a déjà admis les réfugiés. On a eu aussi les chaînes pendant la crise par laquelle la Slovaquie a aidé l'Autriche pendant le temps qui était extrêmement difficile. C'est pourquoi il y a un peu de différence entre mon pays et les autres pays. Mais vous savez que je suis responsable des dossiers européens et pas du gouvernement slovaque. Mais en même temps, je crois qu'on doit dire que maintenant, nous vraiment travaillons sur le sujet qui peut réunir le pays européen. Le sujet que j'ai déjà mentionné sont bien sûr comment on va protéger les frontières, comment on va améliorer les travaux de ces agences et comment on va travailler avec les pays voisinages et avec l'Afrique, parce que je crois que c'est clair qu'on doit faire notre mieux pour améliorer la situation.
Payer pourrait être une bonne option.
Pour payer, mais aussi pour faire les choses d'une manière différente. Hier, je discutais le sujet avec Bill Gates, comment on peut vraiment lévier l'investissement européen aussi par de l'argent du secteur privé pour créer vraiment le projet en Afrique pour l'électricité, pour le développement économique et pour vraiment améliorer la situation sur le terrain en Afrique.
Alors, vous parliez des populistes. Certains rangeraient d'ailleurs le gouvernement slovaque, pourtant social-démocrate, parmi les populistes, parce qu'il y aurait des mots très forts contre les migrants, hein. Alors, on parle aussi beaucoup des populistes italiens sur la question de la migration. Et puis aujourd'hui, ils mettent aussi la Commission dans une situation de difficulté, de tension sans cesse sur leur budget. C'est un piège comptant à la Commission. Et est-ce qu'elle va tomber dedans?
Premièrement, je crois que le gouvernement slovaque, c'est un gouvernement qui est vraiment social-démocrate. Malheureusement, on ne parle très souvent sur tous les pas concrets qui ont été faits pour augmenter la salaire de base, qu'est-ce qu'on fait pour le transport libre pour les étudiants et comment c'est nécessaire vraiment de pousser pour vraiment trouver une situation plus équilibre entre la situation salariale au pays de l'Ouest et au pays de l'Ouest. Parce que nous avons progressé assez bien dans le domaine de la croissance des PIB concernant les salaires. Nous avons commencé à 41% et jusqu'au aujourd'hui, les salaires en Europe centrale sont à peu près 50% de ce qu'on a à l'Europe occidentale. C'est pourquoi c'est nécessaire d'avoir les sociaux-démocrates au gouvernement à l'Europe centrale pour pousser pour cette augmentation des salaires, pour les mesures sociales. Et je crois ici, si on compare ce qui a été fait en Slovaquie, c'est vraiment assez impressionnant.
Non, mais quand vous parlez des populistes, alors vous pensiez aux Italiens, et quand on parle de cette histoire de vont-ils couler la zone euro? Sont-ils en train de faire un budget catastrophique et un bras de fer constant avec la Commission?
Concernant, bien sûr, le budget, maintenant nous sommes en discussion très intense entre la Commission et l'Italie. Et mon ami Pierre Moscovici, je crois qu'il passe beaucoup de temps sur le dossier d'Italie. Nous sommes maintenant en train d'échanger toutes les informations. La Commission européenne va discuter le budget italien la semaine prochaine.
L'autre sujet de la semaine, bien sûr, c'était le Brexit. Nous avons vu au dernier Conseil Theresa May et les 27 incapables de finaliser un accord, toujours bloqués sur la question nord-irlandaise. On revient sur les résultats décevants de ce dernier sommet avec un reportage de Sandrine Gomez.
À peine 3h30, dîner compris pour un sommet à Bruxelles consacré à l'urgence du Brexit. Et à la sortie, des dirigeants européens qui l'avouent, rien à signaler côté britannique, selon le chancelier autrichien Sébastien Kurz.
Avant cette réunion, je vous ai dit qu'il n'y aurait pas d'avancée majeure et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais je reste optimiste sur le fait que nous puissions trouver une solution à la question du Brexit dans les prochaines semaines et les prochains mois.
Un optimisme prudent. Dans les couloirs de Bruxelles, il se murmure déjà que le sommet sur le Brexit prévu courant novembre pourrait ne plus avoir lieu. Pour les dirigeants européens, Theresa May, venue un peu plus tôt exposer sa position, a donc besoin de temps. Mais selon elle, un accord est toujours possible.
Il reste la question de la frontière en Irlande du Nord. Mais je crois que tout le monde autour de la table veut obtenir un accord. Et en travaillant intensément et étroitement, nous pouvons parvenir à cet accord. Je crois qu'un accord est réalisable.
Un accord qui bloque toujours sur la question cruciale de la frontière entre les deux Irlandes. Pour éviter son retour, les Européens exigent une clause de sauvegarde avec des contrôles douaniers qui s'effectueraient entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Hors de question, disent toujours les Britanniques, un problème pour le président du Parlement européen, Antonio Tajani.
Non ho trovato sostanziali novità.
Je n'ai pas constaté de nouveauté majeure dans la teneur du discours de Theresa May.
À moins de 6 mois du divorce face à un gouvernement britannique divisé et sous pression d'obtenir la ratification de l'accord par son Parlement, le négociateur en chef de l'UE a fait un geste. Michel Barnier propose d'étendre d'un an la période de transition au sein du marché unique.
Alors Maro Sefcovic, aujourd'hui on a l'impression que les Européens n'y croient plus. L'Allemagne se prépare à un no deal, c'est aussi le cas de la France. Quelle est votre position?
Mon position est qu'on doit faire tout non possible pour avoir un deal, parce que je suis sûr qu'un accord sur le sujet si sensible comme Brexit sera mieux pour les Européens, mais aussi pour les Britanniques. Et Michel Barnier, il est très très proche ami de moi. Je sais qu'il fait un job magnifique et on a vraiment plein confiance en lui. Et je suis sûr qu'il va utiliser chaque minute pour arriver à un accord. Mais bien sûr, ça doit être un accord qui respecte les priorités européennes, parce qu'ici, nous discutons la coopération de l'Union européenne parmi 27. Et pour nous, bien sûr, ça doit être un deal qui va garantir que l'œuvre va marcher normalement.
Je rappelle que vous êtes en charge de l'union énergétique. Vous avez une voiture électrique ?
J'ai malheureusement non, mais je suis sûr que la prochaine voiture dans notre famille sera une voiture électrique. J'ai essayé si je peux acheter une voiture électrique cette année, mais on m'a dit que je dois attendre une année.
Une nouvelle étape a été franchie cette semaine dans la création d'un géant européen des batteries, oui. Des batteries pour les voitures électriques. Alors, c'est pour quand ? En attendant, on fait comment ? On continue à acheter des batteries aux Chinois, aux Américains ?
Non, je crois que pour nous, c'est une priorité absolue sur cette souveraineté, je peux dire, géostratégique dans le domaine des autres technologies, parce que les batteries pour les voitures électriques ont la même importance que le moteur pour la voiture d'aujourd'hui. Si on veut rester le producteur des meilleures voitures au monde, bien sûr, on doit être en position de manufacturer les meilleures batteries au monde. Et c'est que nous avons discuté cette semaine, je dis que je suis très fier que l'Airbus de batterie a décollé et maintenant il vole avec la fierté européenne parce que nous avons 250 entreprises les plus innovantes en Europe qui travaillent ensemble. J'étais moi-même très impressionné que un an depuis notre commencement, les entreprises ont déjà réussi à accumuler 100 milliards d'euros pour investissement d'aujourd'hui et de demain. Et que nous avons déjà 3 consortiums prêts de produire batteries très vite. Je suis très heureux que probablement le consortium avec la technologie la plus prometteur, c'est la technologie française. C'est une entreprise Saft qui sont très très bien avancées. Et, j'en suis sûr que les voitures européennes ont les batteries vertes soutenables européennes aussi.
Alors, une question toujours sur l'énergie. La Pologne veut acheter du gaz liquéfié américain parce qu'elle n'a pas vraiment confiance à son fournisseur russe, visiblement. Elle a raison ?
Je crois que nous avons fait beaucoup pour cette diversification d'approvisionnement des gaz. C'était une de mes priorités parce que vous savez très bien qu'en 2009, spécialement l'Europe centrale était coupée d'approvisionnement de gaz et c'était une situation horrible.
Les Russes peuvent fermer le robinet, c'est ce qu'ils ont fait en Ukraine.
Tout à fait. Et aussi en Slovaquie, en Pologne, en Hongrie, en Bulgarie. Et je me souviens très bien la décision difficile qui a été prise que la dernière la source d'énergie était ciblée vers les hôpitaux et vers les appartements. Toute l'économie était arrêtée. Je crois que c'est absolument clair qu'on ne peut pas avoir la situation comme ça en futur. Et c'est pourquoi on a travaillé beaucoup sur la diversification des sources et des routes du gaz.
Les Polonais, donc, qu'est-ce que vous pensez
Polonais,
de leur...
Les Polonais, ils ont plusieurs projets. Premier projet est aussi d'avoir le gaz norvégien. Deuxième projet est aussi de créer la condition pour recevoir les gaz liquéfiés des États-Unis, mais aussi des pays africains et des pays du Proche-Orient. Et je peux vous dire que les Lettoniennes étaient les premières. Ils ont ouvert son terminal pour gaz liquéfié. Et immédiatement, Gazprom a baissé le prix par 24%.
Vive la concurrence.
Vive la concurrence, tout à fait. Vive la concurrence. Et c'est pourquoi nous sommes prêts pour avoir beaucoup plus concurrence dans le secteur de gaz en Europe. Parce que j'en suis sûr que ça va nous donner un peu plus de sécurité, le meilleur prix et aussi de qualité de service.
Merci à vous d'avoir été notre invité aujourd'hui, Monsieur Sefcovic.
Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur Radio France Internationale ou sur France 24.